Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Passagem de Nível, bonjour à toutes et à tous. Ce dimanche, dia 7 de septembre. Voilà le menu, on va parler des élections municipales encore et on continue notre tournée dans le département 94. Cette fois-ci, on ira jusqu'à Champigny-sur-Marne, on a chez nous, ici dans les studios, Monsieur Laurent Jeune, actuel maire. Après, on parlera d'une grande polémique en Portugal, savoir entre la révolution des Ayés de 1974 ou le coup d'État, l'autre coup d'État du 25 novembre 1975, qu'est-ce que c'est le plus important? Bon, on va avoir une historienne qui nous va donner son opinion. On parlera également de l'exposition événement chanson de l'exil portugais à l'heure de la révolution des Ayés 1974, qui va avoir lieu du 13 septembre au 31 octobre. À la Maison du Portugal, c'était universitaire. Et après, on va parler de théâtre, ça a à voir encore avec le 25 avril, il s'agit de la pièce La Fleur au Fusil, qui va à nouveau trouver une scène à Paris, Léonard Cécile est auteur, mais également acteur, qui va être au Théâtre La Huchette à partir du 5 de septembre. Mais avant tout, Laurent Jeune, bonjour.
Bonjour, Arthur Silva.
Merci d'être revenu dans nos studios, vous connaissez déjà l'adresse. Alors, je vais, faire un petit portrait. Hein. Donc, cadre commercial dans le civil, si vous me permettez. Conseiller régional Île-de-France, vous appartenez au groupe politique Île-de-France Rassemblée, on va savoir sur la liste Valérie Pécresse, vous avez été élu en 2017. Alors, maire de Champigny depuis 2020. Et alors, à cette date, vous avez détrôné le PCF qui était à la tête de la mairie depuis octobre 1947. Comment vous avez fait?
Ah oui, après 73 ans, je crois qu'il était le temps de tourner la page d'une équipe qui s'était un peu essoufflée et qui avait perdu le sens de certaines réalités. C'était un travail de terrain pendant plusieurs années où j'ai été conseiller municipal d'opposition. Vous savez, je suis né à Champigny. J'ai une attache très forte avec...
Vous êtes un Champinois.
Voilà, un Campinois.
Campinois.
Ma mère était déjà née à Champigny. Et donc, vous voyez, c'est un engagement pour la ville. Au fond, ce que font tous les maires, quel que soit, je pense, l'importance de la ville, c'est on s'engage pour sa commune avant toute chose. Je dirais que le premier parti qu'on a, c'est celui de sa commune.
Alors, quand on parle de Champigny-sur-Marne, il y a toujours l'image du bidonville, la communauté portugaise, le fameux plateau. D'ailleurs, il y a un hommage, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez justement, de Jean-Louis Talamoani, qui a été pendant longtemps maire de Champigny-sur-Marne. Et lui, il a aidé les habitants qui étaient vraiment dans une situation précaire. Ça vous dit quelque chose, ces temps, hein?
Oui, bien sûr, c'est une période qui rappelle beaucoup de choses pour nous à Champigny et Jean-Louis Talamoni a été un maire très engagé pour sa commune et un peu au fond comme ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que c'était un maire qui mettait la commune avant son parti et qui s'engageait véritablement au regard des situations qu'il avait à gérer, et celle du bidonville a été une situation particulièrement longue, douloureuse. C'est une histoire commune que nous avons avec l'ensemble de la communauté portugaise, avec le Portugal. D'ailleurs, si je puis me permettre, je voulais avoir ce matin une pensée pour Lisbonne, pour mon collègue Carlos Modeas, que j'ai eu l'occasion de visiter dans sa mairie, avec le drame qui s'est passé ces derniers jours sur Lisbonne. C'est plus que le drame de des morts, c'est aussi, bien évidemment, on a une pensée pour les familles et toutes les victimes, mais c'est aussi tout le symbole de Lisbonne à travers le funiculaire. Je voulais vraiment le dire ce matin parce que Carlos Modeas est aussi un peu comme Louis Talamoni, un maire très engagé pour sa ville qui essaye de faire des choses. Alors, on apprécie ou pas, mais c'était la même chose pour Louis Talamoni. Il faisait pas le consensus complet, mais il y a une volonté de s'engager. Et ça, Louis Talamoni l'avait, effectivement, au moment où il y a eu cette difficulté très forte. Hein, c'était le premier bidonville d'Europe. Et donc, on a toujours cette mémoire, on la cultive, parce que c'est pour nous important de faire en sorte qu'aujourd'hui, notamment pour les jeunes générations, qu'ils n'oublient pas cette période-là.
Oui, c'est vrai, parce que bon, à l'époque, c'était les Portugais, les Marocains, les Algériens, et un peu d'Africains qui étaient dans ces bidonvilles aujourd'hui, malheureusement, dans la région parisienne et pas seulement. Nous revoilà avec des bidonvilles. Alors, 5 ans et 2 mois de mandat. Donc les élections, c'est au mois de mars 2026, la date exacte, on ne l'a pas encore. Est-ce qu'on peut faire un bilan au bout de 5 ans et 2 mois de mandat? Bon, bien entendu, c'est pas exhaustif, on le fera pendant la campagne électorale, mais déjà, quand vous êtes arrivé, vous y aviez des projets, 5 ans et 2 mois après, vous en êtes où?
Alors, effectivement, ce mandat, il a été extrêmement compliqué pour tous les maires. Hein. Moi, un peu plus, c'est un peu différent au sens où ça a été d'autant plus compliqué qu'on a pris nos fonctions en fait au plein cœur de l'été, le 4 juillet. J'ai été élu donc maire de Jeux de Champigny.
Il y avait le confinement, etc. Tout un tas de choses comme ça.
On a repris un deuxième confinement. Il a fallu organiser la vaccination. Il a fallu gérer toute cette période qui a été très compliquée pendant plus d'une année. Et puis, au moment où ça allait un peu mieux, on a eu la crise énergétique.
Donc l'augmentation du prix de
l'électricité, l'inflation, chauffer les écoles, voilà, on a eu au fond un mandat avec beaucoup de crises, et d'ailleurs la crise financière aujourd'hui que nous vivons dans les collectivités, elle est aussi liée à la crise que rencontre l'État, donc ça a été un mandat compliqué. Pour autant on a agi. On a beaucoup agi. Champigny change beaucoup puisque il faut préparer l'arrivée du Grand Paris Express et tout autour. Ben il faut aménager des rues, faut faire de nouveaux bâtiments. On a créé la police municipale, ça n'existait pas à Champigny, donc on a aujourd'hui une police municipale avec de la vidéoprotection, ce qui était un engagement de campagne très fort. Et aujourd'hui, on en voit les résultats. On avait aussi prévu de refaire un centre-ville. Donc là, on est sur la première étape avec le plus beau magasin Monoprix de France, comme dirait le directeur général de Monoprix, qui s'installe aller à Champigny.
Merci donc pour la PME.
Et puis une médiathèque qui est en cours le long du pont de Champigny, qui va donner sur la Marne avec un rooftop et qui va être un lieu exceptionnel pour que tous les enfants et puis tous les citoyens puissent se cultiver.
Alors, entre-temps, on a eu Monsieur Barnier. Mm-hmm. Actuellement, on a Monsieur Bayrou probablement jusqu'à demain, à fin d'après-midi, on ne sait pas trop, mais en principe, bon. Il a demandé un vote à l'Assemblée nationale et il doit avoir une majorité. Bon, on verra bien. Je préjuge pas des résultats, mais enfin, en principe, demain soir, bon, Monsieur Emmanuel Macron va falloir prendre une décision. Alors, déjà avec Monsieur Barnier, les collectivités territoriales n'ont pas été épargnées. Dans le projet de budget pour 2026, Monsieur Bayrou, le gouvernement demandait des économies aux collectivités territoriales de 5 milliards d'euros. Bon, alors question facile, je suis pas un matheux comme on a pu dire, mais quand on fait les comptes, les dotations, ça se réduit. Le perspective de 5 milliards en moins pour les collectivités territoriales en France, bon, ça suppose quoi de faire? Des coupes. Alors, en mer, les mairies n'ont pas le droit d'être en déficit, contrairement à l'État. Et comment on gère un budget? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'à un moment donné, bon, il faut qu'on coupe. Comment est-ce que vous avez géré cette situation? Bon, elle n'est pas spécifique à Champigny, bien qu'avec M. Barnier, vous avez déjà eu des coupes, je pense, plusieurs millions d'euros, je crois.
Alors, en fait, on a des situations très variables selon les communes, mais je pense que quel que soit le gouvernement, celui d'aujourd'hui comme celui de demain ou comme celui d'hier avec Michel Barnier, il ferait bien de s'inspirer de ce que nous faisons dans les communes, parce que nous avons l'obligation de présenter des budgets à l'équilibre, et nous le faisons, quelle que soit la sensibilité politique d'ailleurs. Donc on a cette rigueur budgétaire parce que nous n'avons pas le choix, et je pense que la règle d'or que devrait s'imposer l'État, elle est encore loin d'être mise en œuvre. Après, alors dans le budget Barnier, normalement on devait être impacté de près de 3 millions de prélèvements.
Au niveau de Champigny, c'est ça?
Uniquement au niveau de Champigny, hein, 2,7 millions pour être précis. La refonte de la loi par le nouveau gouvernement de Bayrou a fait que nous avons été exonérés. Puisqu'en fait, tout était lié, c'était un peu l'erreur du gouvernement de Barnier qui avait mis un seuil à 40 millions pour toutes les villes de 40 millions de budget. Mais vous pouvez avoir une ville qui a un budget de 40 millions et être une ville extrêmement pauvre, et avoir une ville de 30 millions qui a un budget extrêmement riche. Donc ça n'avait pas vraiment de sens. Donc François Bayrou a remis une règle un peu différente, il a regardé en fonction du potentiel fiscal. Donc ce qui nous a permis, nous, puisqu'on est une des 250 villes les plus pauvres de France, on est la 246e, d'être exonéré de ce prélèvement qui normalement était remis aux alentours du million d'euros. Donc on a échappé à la sanction, pour autant... on ne sait pas ce qui va arriver demain, et toute la difficulté va être là, c'est-à-dire comment on arrive à faire en sorte que on n'attaque pas le budget des collectivités qui sont les dernières encore à investir pour le pays, et en même temps faire en sorte qu'on revienne à une idée d'un équilibre budgétaire, parce que ce chiffre des 40 milliards, qu'on mette 40 ou 44, quoi qu'on puisse en penser, c'est celui qui nous permet de ne pas faire augmenter la dette. Et quand on continuera à faire augmenter la dette, il y a un moment, ça va devenir insupportable. Le Portugal est bien placé pour le savoir.
Le FMI est passé par là.
Eh bien, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à éviter. Mais pour ça, il faut faire faut que des hommes politiques et des femmes politiques aient les capacités de produire des choix courageux, un peu douloureux, mais pas hyper douloureux, parce que, au fond, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est le consentement à l'impôt qui revient, qui est un vrai sujet, c'est de faire en sorte que tout ça soit équitable.
Ben, Monsieur Laurent Jeanne, il faut aussi que ces efforts-là soient partagés. Bon, probablement, on risque d'avoir encore des élections législatives anticipées. Je ne sais rien, ça, c'est vraiment un débat de fond. Alors, Champigny a la particularité, je pense que bon, c'est 45% de logements sociaux. Alors, il faut les gérer, parce que bon, ça veut dire que, qui dit logements sociaux, c'est des gens qui ont des bas salaires. Et on sait très bien que ces gens-là, aujourd'hui, ont des difficultés à trouver un toit. Gérer, c'est facile, gérer cette proportion de logements dits sociaux au niveau de la ville de Champigny.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, le logement... alors, on a une part, nous, qui effectivement est sur un contingent ville, mais qui est extrêmement limitée. Le gros du contingent relève de la préfecture. Donc, on a 45% de logements sociaux, 12 758 logements. Donc, on a de quoi répondre à la demande. Pas l'intégralité de la demande, parce que, bien évidemment, il y a toujours des demandes. Puis, les demandes, elles viennent aussi, d'ailleurs, passent forcément de la ville de Champigny, oui. Au sein du département, voire de la région. Donc, ce qu'il faut, et aujourd'hui, c'est une compétence qui remonte aussi aux intercommunalités, donc aux territoires, c'est que des villes comme Champigny arrêtent de construire du logement social. Donc moi, c'est l'engagement que j'ai pris, parce qu'on a 45%, et que les villes qui n'en ont pas assez en fassent plus. Et c'est ce qui se fait au sein du territoire Paris-Est-Marne-et-Bois. On a donné il y a un engagement vis-à-vis de l'État pour en faire plus, et y compris reconstituer du logement de Champigny. Donc on voit que c'est quand même un processus qui est encore en phase de démarrage, mais qui a commencé à produire des premiers effets sur à peu près 300 logements. Donc c'est un bon début.
Ben alors, mais la crise politique qui dure déjà depuis au moins 2 ans, ça ne doit pas simplifier tout ça. Parlons au niveau de l'enseignement. Donc, la commune, elle a responsabilité des crèches, ce qu'on appelle l'enseignement élémentaire, à savoir l'école primaire. Bon, après, les collèges, c'est le département, et les lycées, c'est la région. Alors, on sait qu'il y a des manques de places en crèche, mais apparemment, vous m'avez dit qu'à Champigny, ce problème-là ne se pose pas.
Non, à Champigny, on a en fait 3 crèches municipales, et aujourd'hui, nous avons réussi, alors par une politique d'attractivité de ce que nous faisons au niveau des programmes, au niveau des crèches municipales, à couvrir l'ensemble des berceaux et des personnels nécessaires.
Alors c'est important du personnel, parce que là, la mairie s'est engagée, parce que bon, il y avait des bas salaires pour les gens qui travaillaient, les éducatrices, etc., etc.
Oui, les auxiliaires de puériculture n'étaient pas toujours au niveau de rémunération nécessaire, et puis il n'y avait pas forcément de projets au fond fédérateur, et c'est ça aussi, quand on est un peu en concurrence avec d'autres structures, qu'elles soient d'ailleurs privées ou départementales, on a besoin de porter aussi des projets qui vont stimuler sur le plan professionnel. Donc on a aujourd'hui réussi à couvrir l'ensemble de nos berceaux. Pour autant, on répond pas à l'intégralité de la demande. Quand on a une demande de place en crèche, on arrive à répondre à 1 demande sur 4. Donc
oui,
on a besoin de...
Normalement, il faut s'inscrire avant même que le bébé naisse.
Oui. Bon. Et donc, on a démultiplié aussi avec des mini-crèches qui sont une offre complémentaire. Et puis après, bien évidemment, nous avons la responsabilité des écoles, qui est le plus gros poste aujourd'hui, tant en investissement, puisqu'on est en train de reconstruire deux groupes scolaires. J'avais 10 écoles Payron à refaire, donc là on est sur deux groupes scolaires, donc 4 écoles au total. Et puis, en fonctionnement aussi, puisque au quotidien, nous avons près de 700 personnes qui s'occupent des enfants dans toutes les écoles, dans les 36 écoles de Champigny.
Oui, les crèches, et même les photocopieuses.
c'est en charge de la mairie. Alors, ça concerne les écoles. Il y a un gros problème en France, ça ne date pas d'aujourd'hui, malheureusement, c'est avec les enfants en situation de handicap. Eh bien, alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'école Juliot-Curie? L'année scolaire de 2024 à 2025, il y en avait deux, c'est qu'on appelle AESH. Pour cette année, parce que la nouvelle année scolaire a démarré le 1er septembre, quelle est la situation? Les parents se mobilisent, ils font des manifs devant le rectorat, etc., etc. On peut rassurer les parents ou est-ce que la situation est toujours un peu difficile?
Alors, il y a un problème général au plan national. Effectivement, il y a une loi de l'inclusion qui est là.
Je vous en prie.
Il y a une loi d'inclusion. Pardon, petit chat dans la gorge. Il y a une loi d'inclusion qui est effectivement présente et qui fait en sorte que on pousse les familles à scolariser les enfants. Alors c'est une bonne chose, mais en réalité, nous n'avons pas suffisamment de place pour intégrer correctement avec des assistants d'éducation pour les enfants qui sont en situation de handicap. On a grosso modo, parce qu'il n'y a pas assez de place qui s'ouvre dans les établissements spécialisés, donc les parents inscrivent leurs enfants à l'école, alors qu'en réalité, pour certains cas, ils seraient mieux pris en charge dans des établissements spécialisés, donc on a de plus en plus d'enfants qui s'inscrivent. Aujourd'hui, pour répondre à l'intégralité de la demande, il faudrait augmenter les postes de 20% par an, ce qui est considérable. On a bon espoir d'obtenir des postes en plus sur l'ensemble du Val-de-Marne, puisque plusieurs maires se sont mobilisés, moi je me suis mobilisé bien évidemment sur Champigny, et d'en obtenir sur l'ensemble des écoles, et en particulier là où c'est le plus critique, pour l'école Irénée Joliot-Curie, où nous avions deux postes. On a un troisième poste qui semble maintenant sécurisé, et on aimerait en obtenir plus, puisque la demande est de 6. Ouais.
Voilà. Voilà, on tient compte du nombre d'enfants et les personnes qui pour pouvoir assurer...
Et après, souvent, les AESH en fait sont partagés entre plusieurs enfants, parce qu'ils n'ont pas tout à fait le même temps, parce que là, on n'est pas sur une école primaire, on est sur une école maternelle. Et donc, souvent, le matin, il y a des activités où l'enfant a effectivement besoin d'être encadré. L'après-midi, parfois, ils font la sieste. Et donc, ils ont un peu moins besoin d'un taux d'encadrement de ce point de vue-là.
Alors, il faut dire aussi qu'elles sont payées, je passe l'expression au lance-pierre, des horaires complètement décalés, etc., des sautes d'une école à une autre, c'est un statut pas évident. Vers la fin, je vais vous poser la question, est-ce que vous allez être important pour un nouveau mandat? Alors, une question. Bon, je connais la place Lénine, je connais ça. Parce que bon, on l'appelait aussi la place du marché. Personnellement, j'y allais souvent faire mes courses. Vous avez décidé de débaptiser la place, plus place Lénine. Bon, finalement, apparemment, ça revient à l'origine que ça s'appelait dans le temps place du marché. Excusez-moi, monsieur Laurent Jeanne, mais c'est un petit peu idéologique, votre décision, non?
Non, je crois que, bon, après, il peut y avoir des nostalgiques du Parti communiste. Il y en a encore dans le Val-de-Marne, bien évidemment, et à Champigny aussi. Mais le sujet n'est pas tout à fait là. Le sujet, c'était, d'ailleurs, ce n'est pas une décision du maire, c'est une décision du conseil municipal qui l'a voté. Et donc, à partir de là, effectivement, j'ai fait cette proposition. L'objectif, c'est pas le symbole de Lénine. D'ailleurs, cette place, elle s'appelait Staline au départ. Puis ils trouvaient que c'était un peu dur, donc ils l'ont appelé Lénine. C'est de remettre les choses dans l'ordre de l'histoire. Pendant 5 siècles, cette place s'est appelée la place du marché. Elle s'est appelée place Lénine pendant 70 ans. Quand on fait le comparatif entre 5 siècles et 70 ans, je crois que les choses sont simples d'un point de vue mathématique. Et puis on a un gros projet qui démarrera début 2027 en termes de travaux. On vient de choisir l'architecte pour faire une halle gourmande au cœur de cette place. Et donc, quand on a une halle gourmande autour d'un marché sur une place, ben dans toutes les villes de France, en général, la place, ça s'appelle la place du marché.
Alors, une question, donc, le marché, c'est deux fois par semaine.
Trois fois par semaine, monsieur le centre, oui.
Bon, là, on peut pas stationner, mais avec la construction de la halle, c'est fini, ce petit bout de parc de stationnement?
Non, parce qu'on vient d'ouvrir la semaine dernière le plus beau parking, alors dit le PDG qui gère ce parking, le plus beau parking d'Île-de-France, puisque nous avons ouvert un parking souterrain sous le premier rideau de la rue de Verdun, de 168 places, et on a confié avec le délégataire à deux street artistes le soin de faire 800 mètres carrés de décor qui rappelle la Marne avec du vert et du bleu. C'est magnifique. Et d'ailleurs, ça s'appelle Galerie sur Marne, alors que c'est un parking. C'est assez original, mais je trouvais que c'était intéressant de donner aussi du beau dans un lieu où on est de passage, mais le beau doit être un peu partout dans la ville. C'est ce qu'on essaye de faire.
Monsieur Largène, c'est un parking privé?
Alors, c'est un parking qui appartient à la ville.
Donc,
nous l'avons acheté.
Un partenariat privé. Public-privé, bon, ça
voilà,
c'est
nous, PPP. La ville reste propriétaire, mais elle l'a déléguée dans le cadre d'une délégation de services publics à un gestionnaire, parce que c'est un vrai métier de gérer des parkings, et donc c'est un délégataire qui le gère aujourd'hui.
Et vous arrivez à contrôler un petit peu les prix, ou vous avez droit de regard par rapport à ça?
Ah bien sûr, comme c'est un délégataire, par exemple on confie une patinoire ou une piscine à un délégataire sportif, bah, c'est la même chose. Tous les ans il y a un bilan, et la grille des tarifs a été arrêté conjointement avec la commune.
Monsieur Larojeune, il nous reste environ deux petites minutes. On n'est pas au début de la campagne électorale. À propos, vous avez déjà... Est-ce que vous représentez en 2026?
Écoutez, pour l'instant, j'ai rien annoncé parce que j'ai encore beaucoup de travail, beaucoup de projets. On verra le moment venu. Pour l'instant, c'est mon sujet, c'est surtout délivrer les projets qui sont attendus. On a beaucoup de travail à faire. D'ici à la fin de cette année, on a des routes à livrer pour faire en sorte que les gares du Grand Paris soient accessibles. Donc je suis concentré au quotidien sur tous les projets de la ville. On en a beaucoup. Vous savez, c'est la ville de Champigny, c'est actuellement autant d'investissements publics que ce qu'a connu Bordeaux il y a quelques années. Sauf que Bordeaux, c'est une ville de 200 000 habitants. Nous, on a 80 000 habitants pour des investissements de l'ordre de 3 milliards sur la commune. Ce qui est considérable, avec le Grand Paris notamment, plus tous les projets qui sont portés par la ville. Donc on a un travail au quotidien, je travaille beaucoup, et pour l'instant, je n'ai pas le temps de faire autre chose que de me concentrer sur la mission que m'ont confié les Campinois.
Donc vous n'êtes pas à campagne, votre liste n'est pas faite, donc vous n'êtes pas désigné directeur financier de la campagne, c'est ça?
Alors il y a un mandataire qu'on peut...
Un mandataire, oui.
Voilà, qu'on peut,
c'est
qu'on
fait,
peut
ça a été fait ou pas?
Bon, ça se prépare.
Bon, donc non, je te pose la question, parce qu'automatiquement, ça veut dire, si vous aviez déjà ce mandataire-là, le temps d'antenne aujourd'hui, ça compterait pour la campagne électorale. Que les choses soient claires par rapport à nos auditeurs, par rapport aux autres candidats, parce qu'apparemment, bon, à gauche, 30 secondes, à gauche, bon, donc, on vous facilite la vie, on le met de le tapis rouge, d'un côté PS, PC, etc., de l'autre côté France Insoumise. Vous regardez ça, vous
voyez. Bon, je ne sais pas si le Parti communiste me met le tapis rouge. Ce serait un joli clin d'œil. Mais en l'occurrence, je crois qu'il y a vraiment des problématiques de fond entre l'extrême gauche la plus radicale qui soit, qu'on connaît bien dans le Val-de-Marne, avec la France insoumise, et le Parti communiste, qui au fond ne sait pas trop où il va, s'il travaille son alliance avec des vrais sociodémocrates que sont les socialistes, ou s'ils vont vers la France insoumise.
Monsieur Laurent Jeanne, je vous remercie. À très bientôt. Je pense que vous allez être candidat à nouveau en mars 2026. Et à ce moment-là, on vous invitera officiellement comme candidat dans le cadre de la campagne électorale. Merci d'être venu.
Merci à vous.
Et votre nous d'or direct à passage en est 2017 de septembre. Vous êtes Portugal. Conosco a historiadora e especialista da sinistra polícia política portuguesa, a PIDE, Irene Flancer Pimentel. Muito boa tarde, muito bom dia para si. Muito bom dia. Ora, uma pergunta em forma de provocação, como diria outro, mas enfim. Sobrepor o 25 de novembro de 1975 ao 25 de abril de 1974, ponto de interrogação. Mas, para si, trata-se de uma interrogação legítima, tendo em conta as orientações atuais do executivo de Luís Montenegro e, sobretudo, do ministro da Defesa, Nuno Melo?
É óbvio que não é legítimo, do ponto de vista historiográfico. Portanto, o 25 de novembro não teria existido sem o 25 de abril. Portanto, o 25 de novembro é mais um daqueles episódios, como tinha sido anteriormente o 28 de setembro de 74, o 11 de março de 1975, que resultou depois do 25 de abril. O 25 de abril é um golpe de Estado militar que se transforma em processo revolucionário devido ao apoio da população. E foi a partir desse momento que Portugal derrubou uma ditadura de 48 anos, acabaria por derrotar também o colonialismo e acabar com a guerra colonial, e iniciou um processo que foi, evidentemente, conflituoso, porque estávamos em plena Guerra Fria, em período de ideologias de todos os lados, um processo até à democracia que existe hoje, pronto, que acabou por ser uma democracia europeia. O 25 de novembro não é um golpe de Estado. E, portanto, escusa-se de dizer isso. Por outro lado, foi algo que se passou entre militares. Evidentemente que os partidos também tiveram o seu papel.
Uhum.
Agora, dizer que é um golpe de Estado da esquerda, do PCP, da extrema-esquerda, e que foi derrotado pelo Grupo dos Nove, PS e pela direita, é completamente falso. Para já, os vencedores, de facto, é o Grupo dos Nove, é o PS, pode-se dizer, em parte o PSD, mas atenção que Sá Carneiro exigiu a ilegalização do PCP na sequência do 25 de novembro e não conseguiu. Portanto, nesse aspecto também é derrotado. O CDS, idem aspas. Portanto, há toda uma direita extrema ou uma extrema-direita, como também Jaime Neves à frente dos comandos da Amadora, que também perderam. Ou seja, eles quiseram, sobretudo, a ilegalização do PCP e todos os partidos à sua esquerda. Ora, isso não aconteceu e o PCP foi integrado, e muito devido também ao Grupo dos Nove, sobretudo ao facto de Mel Antunes, mas a pedido do Grupo dos Nove, se ter dirigido à televisão e dizer que o PCP, portanto, a democracia portuguesa, na altura até se dizia o socialismo, isto foi o Mel Antunes, exige a presença do PCP e de outros partidos.
Ora,
já agora, deixe-me só dizer uma coisa, o Ramalhianos, que pode-se considerar que é um dos vencedores, porque dirigiu a parte, digamos, operacional com os comandos, e que acabou por ocupar depois as bases dos paraquedistas, disse o seguinte há uns anos, e eu acho que continua a ser válido. Ele disse que datas fraturantes não se comemoram. Datas fraturantes estudam-se e tenta-se perceber o que aconteceu. Porque ainda hoje há muita, muita confusão, embora já se saiba, através da análise dos acontecimentos, o que aconteceu. Houve, de facto, uma série de provocações, sobretudo do ministro da Aeronáutica na altura, o Moraes e Silva, que pura e simplesmente despediu os paraquedistas. Ora, estes ficaram completamente à toa e não fez só isso. Colocou todos os oficiais dos paraquedistas fora das bases militares, enviou-os para a Corte Gaça, para a base da Corte Gaça, e os paraquedistas ficaram sem aviões, sem nada. Os paraquedistas alguma vez iam fazer um golpe de Estado militar sem oficiais, sem aviões, sem armas?
Uhum.
É óbvio que não. Portanto, houve ali uma série de provocações, porque naquele momento, e a partir de setembro de 1975, tinha havido Assembleias Gerais do MFA, de Tancos, em Tancos, onde, de facto, a relação de forças no Conselho da Revolução mudou. Passou de um Conselho da Revolução maioritariamente, portanto, ocupado por gonçalvistas, passou para um Conselho da Revolução ocupado e hegemonizado pelo Grupo dos Nove. Peço desculpa, porque trave-me em qualquer altura. São tantos acontecimentos.
Não, é evidente, mas relativamente a isso, a Irene Pimentel, aconselho os nossos ouvintes de lerem ou relerem o seu trabalho que foi publicado em 2024, do 25 de abril de 1974 ao 25 de novembro de 1975, episódios menos conhecidos, publicado por Temas e Debates, que é uma chancela de Bertrand Editora. Ora, o Conselho de Ministros, agora voltamos à atualidade, no dia 28 de agosto, aprovou a criação de uma comissão para promover e organizar as comemorações do 50º aniversário do 25 de novembro de 1975. É que referir que já no ano transato impôs a celebração do 49º aniversário do 25 de novembro, talvez para fazer sombra ao 50º do 25 de abril de 74.
Exato.
Ora, o ministro da Defesa, Nuno Melo, do
CDS-PP anunciou que Zita Seabra seria a presidente desta comissão. O que é que pensa desta nomeação?
Olha, está-me a dar uma grande novidade. Eu vi isso ontem e achei que era uma brincadeira.
Aparentemente não. Aparentemente, bom, não é.
Pronto, Zita Seabra realmente foi à SIC Notícias a semana passada e eu tive a ocasião até de dizer de que forma ela estava a cometer uma série de inverdades, inclusive relativamente aos testemunhos que ela própria tinha dado anteriormente. Ela diz que foi um golpe de Estado do PCP, foi derrotado. Agora, antes, como estava ela própria no PCP, ela disse que o PCP de facto tinha mobilizado preventivamente as suas forças e depois as desmobilizou no próprio 25 de novembro, até porque o PCP não queria uma guerra civil e sabia que se avançasse ou se avançasse, de certa maneira, podia provocar uma guerra civil. Por outro lado, ela também disse que com que é que o PCP faria um golpe de Estado. Não tinha os fuzileiros que não atuaram. Os comandos estavam do lado do grupo dos nove. E os paraquedistas estavam a ocupar sedes, mas, como eu já disse há pouco, sem armas, sem aviões e sem oficiais. Isto está mais próximo da verdade do que a verdade atual de Zita Seabra. Agora, o que é curioso é que se tente equiparar o 25 de novembro, há até quem já fala à direita e à extrema-direita que deve ser um feriado, ao 25 de abril. Ora, o 25 de abril foi onde tudo começou, onde tudo nasceu. É aquela madrugada limpa, como dizia a Sofia Melbreiner. Este 25 de novembro, ainda por cima, tem uma característica, é que existe uma comissão de comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, que é estatal, que, portanto, foi criada pelo governo, na altura o governo PS, que é comissariada pela minha colega Maria Inácia Resola, e que vai até à aprovação da Constituição, portanto, ao cinquentenário da aprovação da Constituição, portanto, até 2026. Agora, temos duas comissões, é isso que eu pergunto. Uma que já fez muito trabalho e que tem comemorado desde o 25 de Abril até aos vários, e também vai fazer uma conferência onde eu vou estar no próprio dia 25 de Novembro, que é uma conferência, então, do ponto de vista historiográfico, para analisar, de facto, estudar o acontecimento. E agora pergunto, agora há duas comissões. Pronto, isto além de tudo mais é ridículo, porque é preciso ver que o Ministro da Defesa, Nuno Melo, é do PP, PP esse que não teve votos nenhuns nas eleições e que só está no governo porque fez uma aliança com o PSD.
Eles não têm nenhum deputado na Assembleia da República, não?
Tem um, porque foi negociado, devido à aliança da AD, para criarem a AD. O PSD deu a pasta da defesa ao Nuno Melo e deu, portanto, um lugar de deputado também a outro elemento do PP. Agora, o que é mais extraordinário disto tudo é que, pelos vistos, não vão convidar historiadores, não é? Não vão convidar, pelo que me está a dizer e pelo que eu penso, de certeza, os participantes militares do Grupo dos Nove, por exemplo, o Vasco Lourenço, não sei qual vai ser a atitude do Ramalho Llanes, e muitos, inclusive, já morreram, não é? O Hotel já cá não está para dizer a sua verdade. A Almada Contreiras, que era o chefe do SDCI, portanto, os Serviços Secretos Militares, que era também, era do Conselho da Revolução e, na sequência do 25 de novembro, também foi afastado e morreu justamente em dezembro do ano passado. Portanto, as principais testemunhas, os principais protagonistas não vão estar nesta comissão. E Zita Seabra desdisse o que testemunhou há uns anos. Portanto, eu assisti a uma entrevista que ela deu e é uma coisa que eu fiquei até revoltada, porque do ponto de vista histórico era falsidade só.
Ora, Irene Pimentel, até que ponto, bom, é polémica, bom, é uma polémica, por trás da polémica há outras, atualmente, haverá outras razões. Bom, atualmente o Executivo Luís Montenegro é criticado, muita gente diz, um certo número de pessoas dizem que finalmente a AD está... a aplicar um programa de extrema-direita, não é? Até que ponto é que finalmente esta dita confusão, ou que tentam fazer confusões do 25 de abril e 25 de novembro, isso não tem a ver com a viragem política que houve em Portugal?
Como é evidente, há uma viragem política à direita, e até penso à extrema-direita, que é manifesta em... legislação, que até uma das quais que a lei dos imigrantes foi chumbada pelo Tribunal Constitucional, portanto há toda uma viragem e evidentemente que as datas, as nossas datas, a nossa memória e a nossa história está a ser instrumentalizada pela direita e pela extrema-direita também. Ora, a história não tem de ser instrumentalizada, não devia ser, nós sabemos que sim, sobretudo a história mais recente. Agora, os historiadores têm uma palavra a dizer no meio disto tudo, e estou convicta, se os historiadores, ou se algum fosse convidado, não diria, como disse Cita Seabra, que foi um golpe de Estado do PCP que foi derrotado. Pura e simplesmente, não. Houve aqui uma complexidade de fatores, houve provocações a todos os níveis, sobretudo à direita, e finalmente o 25 de novembro acabou por ser, digamos, uma vitória do Grupo dos Nove, e pode-se dizer do PS, pronto. Isso é o que aconteceu e o resultado. A democracia, o processo democrático, continuou a partir do 25 de novembro.
Mas a esse propósito, a Irene Pimentel, se me permite que cita o atual, ainda Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, isto foi no dia 25 de novembro de 2024. Ele disse que acredita que com a 25 de abril abre-se um caminho complexo e demorado, e a 25 de novembro de 1975 dá-se um passo muito importante no caminho dessas liberdades que foram abertas com o 25 de abril. O que é que pensa desta...
Penso que é a opinião dele, evidentemente. Agora eu só lembro uma coisa muito importante. As eleições de 25 de abril de 1975, anteriores ao 25 de novembro, realizaram-se devido à vontade do MFA. O PS acabou por ganhar essas eleições, portanto, a partir de determinado momento ali, no finais, ou na, digamos, a partir de meio de 1975, houve um debate ou um combate, digamos, ideológico, sobretudo, não militar, não havia este facto, entre uma legitimidade revolucionária e uma legitimidade, digamos, democrática ou parlamentar. E o que acontece depois do 25 de novembro é que a Assembleia Constituinte eleita nessas eleições vai continuar a fazer o seu trabalho na Assembleia da República até à Constituição de 1976, portanto, no ano que vem fará 50 anos.
50 anos.
E o que é muito interessante, já agora, Marcelo Rebelo de Sousa, já que falou dele, sabe que ele é... o presidente da Comissão das Comemorações do 25 de Abril.
Não.
Então, como é que é agora? Ele é presidente dessa comissão que continua e que é estatal. E ele agora vai, não sei, qual será então a atitude dele relativamente a esta comissão, que eu chamo Comissão Zeca, muito rapidamente e apressadamente feita por Nuno Melo. É uma interrogação que eu faço.
Ora, Irene Pimentel, queria lhe agradecer e, bom, resta-nos à volta de 3 ou 4 minutos. Numa entrevista, aliás, a entrevista foi feita a si, igualmente, ao Fernando Rosas. Isto a propósito quanto a saber se o 25 de novembro está definitivamente explicado. Ora, segundo aquilo que eu li, tenho aqui à minha frente, a Irene Pimentel disse que não e referiu esperar que nos 50 anos do 25 de novembro, cito, haja novas contribuições, quer dos capitães, quer dos militares, porque o conflito foi entre eles e não com os civis. Fim de citação.
Exatamente, eu diria a mesma coisa.
Não, eu não, mas foi Irene Pimentel que eu disse, não?
Eu sei, eu não. Digo a mesma coisa ainda hoje. Eu sei. E penso que sim, é isso que eu penso. Sei que, por exemplo, Vasco Lourenço, com algumas informações que entretanto foram surgindo, e que eu também sei quais são, vai publicar as suas memórias, por exemplo, um dos capitães protagonistas, e penso que vai haver bastante discussão a nível, portanto, da opinião pública e da comunicação social, espero eu, e também espero que haja novas contribuições. Muita coisa já se sabe, mas falta também algumas. Infelizmente, por exemplo, o Hotel Saraiva de Carvalho era uma figura, uma testemunha muito importante, já não está cá. O que se sabe é que o Hotel Saraiva de Carvalho, que dirigia o COPCOM, não deu qualquer ordem para os paraquedistas saírem. Embora, segundo Dizianos, a ordem poderá ter partido do COPCOM, mas sem que o hotel soubesse. E sabemos que o hotel, durante praticamente toda a noite, 24 para 25, e depois, esteve ausente. Portanto, não dirigiu nada. E é esse tipo de coisas, de pequenos pormenores, mas que acabam por ser grandes, que ainda se calhar falta esclarecer. Agora, que não foi um golpe de Estado e que o PCP desmobilizou forças que preventivamente tinha mobilizado, isso tenho a certeza absoluta, porque há muitos testemunhos. E eu própria já ouvi esses testemunhos de pessoas que mais tarde disseram com a mágoa que tinham desmobilizado as forças do PCP. E, portanto, acabou por ser uma coisa depois entre militares. Também, por exemplo, quando os comandos invadem a Polícia Militar, o Regimento de Polícia Militar, já no dia 26 de novembro, e provoca mortes, é, digamos, um processo estranho, porque já tudo tinha estado resolvido. Já Costa Gomes tinha recebido a rendição de praticamente todas as forças que não eram do Grupo dos Nove.
Enfim, bom, significa, isso é importante porque o debate continua e é preciso que os historiadores possam continuar a trabalhar e que bom, o trabalho deles seja divulgado e publicado. Exato. De maneira que, bom, que não se volte à lei da rolha, como se dizia antigamente, do tempo da velha senhora. Irene Pimentel, muito obrigado e aos nossos ouvintes...
Eu que agradeço.
Convido os nossos ouvintes a irem às redes sociais, verem todas as publicações que fez à volta da PIDE e não só, mas este trabalho vale a pena porque falamos do 25 de Abril, de 25 de Novembro e 25 de Abril também, mas para chegar ao 25 de Novembro temos de saber o que se passou desde o 25 de Abril de 1974. Portanto, repito, do 25 de Abril de 1974 ao 25 de Novembro de 1975, episódios menos conhecidos, publicado por Temas e Debates, que é uma chancela da Bertrand Editora. Muito obrigado, Irene Pimentel.
Eu é que agradeço muito. Boa tarde.
Muito boa tarde. E vamos terminar com música. José Mário Branco, não é por acaso, o tema Ronda do Soldadinho. José Mário Branco estava aqui exilado aqui em França e de uma certa forma vai-nos abrir precisamente para o tema a partir das 13 horas, a propósito da exposição Chanson de l'Exil Português à l'aube de la Révolution des Aïeux 1974, que vai estar patente ao público de 13 de setembro a 31 de outubro no Hall da Maison du Portugal, na cidade universitária de Paris.
Trabalhar, vai gado guardar, já vai percebeu que esses senhores mandavam a guerra contra os seus irmãos de cor. Soldadinho lindo, és também trabalhador. Viras a espingarda contra o teu explorador. Terra, vais lutar agora para acabar com essa guerra. Soldadinho lindo, és o rei do nosso povo e contigo vamos construir um mundo novo. Lá, lá, lá.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora da Passagem de Nível, neste domingo, dia 7 de setembro. E em forma de introdução do tema que vem a seguir, o tema, iremos falar da exposição Chanson de l'Exil Portugais à l'aube de la Revolution des Aïe, 1964. 14, que vai estar patente ao público de 13 de setembro a 31 de outubro no Hall da Maison de Portugal, na cidade universitária de Paris. Um tema musical que vai fazer introdução é quem manda ao freire livre.
Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Não há morte para o vento. Não há morte. Não há morte para o vento. Não há morte. Se ao morrer o coração morresse a luz que lhe é querida, se ao morrer o coração morresse a luz que lhe é querida, sem razão seria a vida, sem razão, sem razão seria a vida, sem razão. Nada apaga a luz que vive num amor, num pensamento. Nada apaga a luz que vive num amor, num pensamento. Porque é livre como o vento. Porque é livre. Porque é livre como o vento. Porque é livre. Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Não há morte para o vento. Não há morte. Não há morte para o vento. Não há morte. Se ao morrer o coração morresse a luz que lhe é querida, se ao morrer o coração morresse a luz que lhe é querida, sem razão seria a vida, sem razão, sem razão seria a vida, sem razão. sem razão. Nada apaga a luz que vive num amor, num pensamento. Nada apaga a luz que vive num amor, num pensamento. Porque é livre como o vento. Porque é livre. Porque é livre como o vento. Porque é livre.
Manuel Freire, o tema O Livre. Manuel Freire, que vai estar aqui em Paris no dia 20 de setembro, com quem? Com Francisco Cafanhais. Isto faz parte, evidentemente, do tema que eu tinha já feito introdução, ou seja, da exposição Chanson de l'Exil Português, à l'aube de la Révolution des années 1974. Vai estar patente ao público dia 13 de setembro, é precisamente dia 13 de setembro, que será feita a inauguração da exposição. Ora, para falar dessa exposição, nada melhor do que ter a Agnès Pellerin, da Universidade Nova de Lisboa, que é uma das responsáveis do projeto da INET. Pois bem, concretamente, quisemos saber o que é este projeto e quais são os objetivos.
L'INET, c'est un laboratoire de recherche d'ethnomusicologie de l'Université Nouvelle de Lisbonne. Et donc, elle est, cette équipe est porteuse du projet Musique et Exil, qui donc travaille sur les interactions entre la musique et l'exil en général, mais en partant du cas spécifique des Portugais qui se sont exilés en France sous la dictature de l'État allemand. Donc en particulier, bien sûr, la génération des années 60-70 qui fuyait les guerres coloniales, mais en remontant aussi plus longtemps, jusqu'aux années 30, à travers, par exemple, le parcours du compositeur Fernando Lopes Grassa, également exilé à Paris dans les années 30. Donc l'idée de ce projet, c'est d'étudier, bien sûr, les parcours biographiques de ces musiciens, de ces chanteurs, mais aussi d'évoquer tout le contexte de création et de diffusion de leur activité musicale et d'étudier aussi l'impact qu'ils ont pu avoir sur les autres communautés exilées en France, l'impact qu'ils ont eu en France et l'impact qu'ils ont eu aussi au Portugal.
Alors, d'abord, il y a deux noms qui viennent tout de suite, mais on va y rêver petit à petit. Et bien sûr, Louis Chiria et José Maria Branco. Bon, déjà, il s'agit d'une exposition documentaire, un regard sur une histoire musicale. Et on parle aussi d'un support pédagogique, mais apparemment, c'est pas exactement un support pédagogique. Mais avant d'arriver à ce support, c'est une expo documentaire. Peut-être l'expliquer un petit peu, qu'est-ce qu'on va voir dans cette expo?
Oui, alors donc bon, déjà c'est une petite exposition, ce sont en fait 13 panneaux qui sont illustrés, qui sont rédigés en français et qui sont illustrés de photos, de pochettes de disques, de pamphlets, d'annonces de concerts, de matériaux d'archives. C'est écrit avec une volonté vraiment pédagogique pour pouvoir s'adresser à des gens qui ne connaissent éventuellement pas du tout la musique portugaise, même qui ne parlent pas forcément le portugais. Et en parallèle, il y a des enregistrements qui ont été faits avec des très courts extraits de chansons qui ont aussi une petite traduction en français. Donc voilà, c'est vraiment destiné à un public large. Et après, il y a vraiment une volonté de pouvoir s'adresser aux plus jeunes générations, donc notamment les publics scolaires, les groupes qui apprennent le portugais, qui sont vraiment invités à venir l'avoir avec leurs professeurs, pour essayer d'attirer à travers ce matériau musical qu'est la chanson, qui est très facile d'accès, qui peut saisir l'attention même si on ne comprend pas les paroles. Donc il y a une volonté de pouvoir s'adresser à un public large et bien sûr, aux personnes qui sont directement concernées, qui ont vécu cet exil, qui connaissent ces chansons, qui les ont fait vivre en fait, mais aussi des jeunes générations qui ne connaissent pas forcément cette histoire, qui ne sont pas forcément conscients de la nécessité de la mémoire de toute cette histoire de la résistance à la dictature.
Alors justement, Madame Agnès Pellerin, c'est qu'on est déjà à deux générations après le 25 avril. Justement, faire connaître l'histoire du Portugal et la lutte contre le fascisme, la lutte contre la guerre coloniale. Le faire connaître en France, c'est très important pour ces générations-là. D'autant plus qu'aujourd'hui, au Portugal, on vit une situation un peu trouble. On essaye de réviser un petit peu la dictature, etc. Donc, cette exposition est plus qu'actuelle, en quelque sorte.
Oui, bien sûr, et peut-être malheureusement, j'ai aussi l'occasion de dire ici qu'elle est accueillie à la Maison du Portugal, qui est dans la Cité internationale universitaire de Paris, qui fête cette année ses 100 ans, qui a été créée en 1925 autour du thème des échanges interculturels et de la paix. Hein, donc évidemment, ce thème de la paix est toujours d'actualité. Et finalement, un des buts de l'exposition, c'est aussi de bien montrer à quel point c'est pas une histoire seulement portugaise, et malheureusement le contexte aussi qu'on connaît aujourd'hui au Portugal n'est pas exclusif au Portugal. C'est vraiment une histoire internationale qui implique l'histoire des guerres de libération africaine, qui implique tout un contexte géopolitique, et finalement l'exil était à la pointe de ces échanges associatifs, militants dans les communautés portugaises de France, mais aussi en lien avec la Belgique, le Danemark, de nombreux pays où il y a eu des communautés de déserteurs très importants.
Alors, Madame Pellerin, peut-être qu'on parle du programme. Déjà, le programme du vernissage, je rappelle, qui aura lieu de samedi 13 septembre à partir des 18h. Alors, qu'est-ce qui va se passer à partir de 18h le 13 septembre?
Le 13 septembre, donc, c'est avant tout un moment convivial pour fêter le vernissage en présence de Manuel de Musil. Donc, en présence de Manuel de Musil, qui est le coordinateur du projet, qui sera là. Donc, il y aura une petite présentation de l'expo, bien sûr, des partenaires, donc la Maison du Portugal, dont j'ai parlé, mais aussi Mémoria Vive, qui avait fait une exposition très importante en 2019, Refuser la guerre coloniale, également à la Maison du Portugal. Donc, ce sera seulement une présentation conviviale, ouverte à tous. Et ensuite, à 20h, ce sera l'occasion de projeter ce très beau film et très important au South de Christian de Challonge, qui est un film de 1967, un film français qui a été fait avant même que la question de la main-d'œuvre étrangère soit soulevée par mai 68, qui a été fait avant que la question des bidonvilles devienne vraiment prégnante pour la gauche en France. C'est un film très important, donc il va être présenté, projeté à 20h. Dans une qualité de copie toujours qui laisse à désirer, puisque c'est un film qui aurait besoin d'être restauré. Mais voilà, ce sera l'occasion de présenter ce film dont la musique, dont la bande originale a été faite par Louis Cilia.
Oui, d'ailleurs, c'est un document historique, si on peut le dire. Alors, là, il y a l'expo qui va rester jusqu'au 31 octobre, mais entre-temps, il y a d'autres activités qui sont proposées dans le cadre de ce projet, et le samedi 20 septembre, alors là, on revient à la chanson d'intervention, entre guillemets, je mets des guillemets au mot intervention, c'est concert rencontre avec Francis Cunhais et Manuel Freire, accompagné à la guitare par Rogério Cardoso. Samedi 20 septembre à 17h30, toujours à la Maison du Portugal. Donc là, on a deux chanteurs, deux intervenants dans la lutte contre le fascisme qui seront à Paris.
Voilà, tout à fait. Donc il y a ce concert qui est prévu, donc avec des personnes dont c'est extraordinaire, parce qu'ils chantent encore. Hein. C'est aussi le cas de Serge Godin. C'est aussi un élément très fort de cette génération qui est encore très active. Musicalement et comme figure publique dans la société portugaise. Donc, ça a vraiment une chance d'avoir Francisco Cunhais et Manuel Freire avec nous. Et en plus de pouvoir échanger un petit peu avec eux de manière informelle, avec deux jeunes musicologues, Hugo Castro et Ricardo Andrade, qui seront présents également, qui sont des musicologues de l'INET et qui ont une très grande importance dans cette exposition collective, donc, qui a été réalisée par ces chercheurs de l'INET-MB et qui reprend également des éléments d'une exposition qui s'avait fait précédemment, avec aussi d'autres chercheurs, d'autres instituts, présentés à Grandola en 2020.
Alors, le 5 octobre, là, bon, il y a toujours l'expo à la Maison du Portugal, à la cité universitaire, mais là, bon, on se déplace dans Paris 12e, c'est la salle de E2-MEP, projection au débat, la musique dans les films sur l'immigration portugaise des années 1960-1970, et ceci en partenariat avec l'association Memória Viva, Mémoire Vive.
Voilà, donc là c'est une séance avec un public un peu plus réduit hein, du fait du local qui est plus restreint, et où ce sera l'occasion de voir ou revoir quelques images de films effectivement qui parlent de l'immigration portugaise de l'année 60-70. De l'exil des Portugais, parler un peu de la musique dans ces films, et notamment autour d'un film important qui est Laurette et les autres de Dominique Dante. Et parler là encore aussi de l'urgence de préserver la mémoire de ces films, de préserver les copies hein, de ces supports filmiques qui sont vraiment très très fragiles et qui se dégradent et qui risquent de ne plus être visibles d'ici quelques années.
Alors, une autre activité publique, entre guillemets, ça sera le jeudi 9 octobre à 18h30, cette fois-ci, à la Fondation des Maisons des Sciences de l'Homme, 54 boulevard Raspail à Paris 7. Et là, il va y avoir une conférence avec Manuel Denis Silva, musicologue l'INET de l'Université Nouvelle de Lisbonne. Alors, c'est un chercheur, il est un des responsables de ce projet en plus.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une rencontre qui a lieu dans le cadre des rencontres de la bibliothèque de la Fondation Carlos Gulbenkian. Donc c'est effectivement un échange avec Manuel Denis Silva, qui est entre autres spécialiste du parcours de Fernando Lopes Graça, et qui dialoguera avec Cristina Climaco, qui est spécialiste de l'exil des Portugais en France dans les années 30. Donc ce sera l'occasion de se replonger dans une histoire qui peut sembler ancienne, mais bon, finalement, ces années 30, elles sont aussi très proches de nous, et de voir notamment comment le parcours de Lopes Graça ça éclaire tout le contexte créatif, cosmopolite de cette époque à Paris.
Et on compte avoir justement Francis Coignage le 14 septembre pour parler du concert du vin. Un peu plus tard, au mois d'octobre, on aura l'historienne également, Christine Kliemeko. Et d'ailleurs, dans quelques instants, dans quelques minutes, on va voir qui ça, ni plus ni moins que Manuel Tavares, qui c'est le président de l'association Mémoire Vive, qui va nous parler de ce partenariat. Dernière question, Madame Pellerin. Cette expo, bon, au-delà de marquer un coup, entre guillemets, puisque 1974-2024, il y a déjà 51 ans, du 25 avril, disons que l'histoire, c'est très important. Pour savoir où on est, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Je crois que ça, c'est très important.
Tout à fait. On vous rejoint. Tout à fait, et d'où on vient de façon collective et à travers une mémoire partagée qui concerne bien sûr l'histoire des Portugais, mais aussi tout simplement l'histoire des sociétés européennes.
Madame Pellerin, je sais que vous parlez portugais, peut-être une invitation en portugais à nos auditeurs, justement, pour aller voir cette exposition, mais également toutes les initiatives qu'il y a autour.
Esta iniciativa realmente quer atrair pessoas que nem conheçam muito bem esta história e então sejam bem-vindos na mesma de Portugal e nos outros sítios.
Nem mais, nem menos, professora universitária Agnese Pellerin, a propósito desta exposição Chanson de l'Exil Portugais à l'aube de la Revolução des Oeillets 1974, que vai estar patente ao público de 13 de setembro, dia 31 de outubro, na Maison de Portugal, é como que diz, na cidade universitária de Paris, um trabalho organizado pela INET, Universidade Nova de Lisboa, e em parceria com a Associação Memória Viva, Mémoire Vive. Manuel Tavares, muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado por estarem em direto connosco, é precisamente a presidente da, diga, do ZAM, Memória e por aí fora, da associação. É importante esta parceria porque, bom, para já é um tema que faz parte também do vosso trabalho, mas também é um certo reconhecimento da parte dos universitários que prepararam isto tudo.
Sim, é... A nossa associação Memória Vive, Memória Viva, apporte o soutien e participe ao projet Isimus, chanson de l'exil portugais à l'aube de la révolution des ailleurs. Et effectivement, ils nous ont invités à participer à cela, à faire une parceria, et nous sommes très heureux d'être avec eux. Nous participons à ce projet parce qu'il rencontre les objectifs de notre association. Mmh. Notre projet fondateur est de faire connaître les réalités de l'histoire des immigrés et des isolés portugais en France.
Alors, dans l'interview, Agnès Pellerin avait fait mention de l'exposition, justement, qui avait été faite, et on a pu la voir à la Maison du Portugal, cité universitaire, justement. Donc, c'est important aussi, ça vaut la peine de se rappeler de cette exposition, parce qu'il y a eu un livre qui a été publié là-dessus.
Si, si, il y a eu un livre, c'est l'exposition de la guerre coloniale, d'Hugo de Santos. Il a fait une petite brochure, un petit livre racontant cette histoire. Donc ça, c'est une espèce de continuité, cette participation que nous avons avec Isimus.
Alors, dans le vernissage, il y aura au lieu de samedi 13 septembre, à partir de 18h30, à 20h, on va avoir la présentation d'un document. Moi, j'appelle ça que c'est un document historique. Il s'agit de la projection du film Au Salto. Apparemment, la qualité technique n'est pas... il aurait fallu faire quelque chose de digitalisé, sauvegarder. Donc, c'est un film de Christian de Chalonge qui date 1967. Et apparemment, c'est un film qui parlait de l'immigration avant qu'on parle de l'immigration en France, même avant mai 68, il faut le dire. Ce film-là, Association Mémoire Vive, finalement, ça fait un lien entre un passé qui n'est pas si lointain que ça et aujourd'hui, non?
Oui, effectivement, c'est le premier film qui parle des drames de l'immigration à Salto, du Portugal vers la France. C'est un film qui est accompagné par une musique de Luis Cilia, mais effectivement, c'est la première alerte, la première prise de conscience pour les Portugais de France et pour les Portugais en général et pour les Français de connaître cette immigration qui était un drame pour les Portugais.
Oui, des Portugais dans les années 60-70 et d'autres aujourd'hui vivent aussi dans des bidonvilles. Mais enfin, alors il y a certain nombre de dates. Le 20 septembre, ça va être un concert, rencontre avec Francisco Cunhas et Manuel Freire, accompagné à la guitare par Roger et Cordoso Pires. Et je fais la liaison entre ce concert, rencontre, avec ce qui va se passer le 5 octobre à partir de 15h30 à la E2MEP, 8 en passe de Crozatier en Paris 12e. Alors, projection et débat, la musique dans les films sur l'immigration portugaise des années 1960 et 1970. Qu'est-ce qui va se passer ce dimanche 5 octobre?
Le dimanche 5 octobre, nous organisons donc au local de l'EDMP, 8 en passe Crozatier à Paris 12, c'est une rencontre, échange autour du film Laurette et les autres. Un film de Dominique Dante avec une chanson de Luis Cilia, Meu País, et accompagnement à la guitare de Carlos Paredes. Le film Laurette et les autres de Dominique Dante est de 1972. Il présente la mobilisation des Portugais de Bidonville de Massy et la solidarité des militants français pour soutenir la lutte dont Laurette Fonseca était devenue le symbole. La chanson de Luis Cilia, Meu País, accompagne ce récit.
Oui. Donc, oui, et d'ailleurs la mobilisation a continué parce qu'à un moment donné, Laurette Fonseca, elle avait été menacée d'expulsion de France.
Oui, elle a été menacée d'expulsion et donc dans le film on peut voir cet épisode de l'expulsion et les organisations françaises qui ont soutenu les Portugais à ce moment-là pour soutenir la lutte de Laurette Fonseca, qui n'a pas été expulsée, effectivement.
Oui, tout à fait, oui. Ben, je me permets, je peux le dire, j'ai été à Massy, justement, dans les manifestations et tout ça. Bon, c'est des moments de lutte.
Tout à ton honneur.
Non, mais je ne devrais pas le dire. Manuel Tavares, merci. Donc, je rappelle président de l'association Mémoire Vive, Mémoire Vive. Et vous allez être présent, bien entendu, le samedi 13, donc samedi prochain, à la Maison du Portugal.
Oui, nous le serons très présents parce que ce projet met en valeur un aspect important. Il est peut-être peu connu de l'histoire des Portugais de France. Hein. Il s'agit du rôle joué par les jeunes chanteurs portugais exilés en France à ce moment-là. Ils critiquaient la dictature et les injustices sociales au Portugal. Hein. Ils s'opposaient à la guerre coloniale, ils faisaient connaître les duretés de la vie des immigrés des Portugais de France. Hein. C'était Luís Cilia, José Mário Branco, Sérgio Godinho, Manuel Freire, Francisco Fagnaz, etc. Donc, je veux dire que ces jeunes chanteurs ont animé des fêtes dans les associations portugaises auxquelles ils participaient. Hein. Ils ont eu un rôle important pour faire connaître à la société française les réalités du Portugal sous la dictature et les difficultés de la vie des Portugais exilés en France ou immigrés en France. Et ces chanteurs ont fait connaître ces situations alors presque ignorées en France. Ils l'ont fait à travers des chansons engagées à l'occasion des concerts, à travers des disques qu'ils ont pu enregistrer en France. Je rappelle que c'est en France et à Paris qu'ils ont pu parfois retrouver des chanteurs portugais contestataires qui n'étaient pas exilés, mais étaient très surveillés par la PIDE, tel José Afonso, avec certains d'entre eux ont enregistré les chansons de Grande Le Villa Morena.
Effectivement. Je vais rajouter un nom, Tine Flores, on l'oublie parfois. Oui. Il y a un travail très important. Manuel Tavares, merci. Donc, à la fin de la première heure de cette émission, on a passé José Mário Branco avec Ronde de Soledinho, qui a été composé et enregistré en France. On a passé Manuel Freire et maintenant, justement, ça va être Francisco Fagnaz. Manuel Freire et Francisco Fagnaz qui vont être ici à la Maison du Portugal le samedi 20. Merci, Manuel Tavares, et à très bientôt, alors.
À très bientôt. Merci beaucoup.
Francisco Fagnaz.
Preciso avisar toda a gente, dar notícia, informar, prevenir, que por cada flor estrangulada há milhões de sementes a florir, que por cada flor estrangulada há milhões de sementes a florir. É preciso avisar toda a gente, segredar a palavra e a senha, engrossando a verdade corrente de uma força que nada detenha. Engrossando a verdade corrente de uma força que nada detenha. É preciso avisar toda a gente que há fogo no meio da floresta e que os mortos apontam em frente o caminho da esperança que resta. E que os mortos apontam em frente o caminho da esperança que resta. É preciso avisar toda a gente, transmitindo este morse de dores. É preciso, imperioso e urgente,
mais flores, mais flores, mais flores. É preciso, imperioso e urgente. Mais flores, mais flores, mais flores.
Estamos já na reta final desta emissão do domingo, dia 7 de setembro. E vamos continuar na mesma tonalidade. Isto a propósito da peça de teatro La Fleur au Fusil, do ator e autor Lionel Cecílio, ao Teatro de La Huchette, em Paris 12, representações a partir do dia 11 de setembro. E precisamente há que referir que esta peça tem uma história que tem a ver com a avó, mas é melhor o Lionel Cecílio explicar isto tudo.
Oui, c'est exactement ça. En fait, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans les grandes histoires, c'est les petites histoires qui ont fait la grande. Et ce qui m'intéresse, c'est les parcours de vie des gens, et notamment des gens qui m'entourent. Et moi, il se trouve que la révolution des œillets, je connaissais pas ou pas bien. Et lorsque j'ai découvert cette histoire, j'ai passé un coup de fil à ma grand-mère et je lui ai dit « Pourquoi tu m'as jamais raconté ?» Et elle m'a répondu « Pourquoi tu m'as jamais demandé ?» Et je me suis rendu compte que c'était surtout là-dessus qu'il fallait écrire, sur ce passage de relais, sur cette main tendue d'une génération à l'autre qui permet non seulement une empathie, une compréhension, mais aussi de s'ancrer dans ses racines et surtout qui permet un vrai devoir de mémoire. Et donc ça passe par les anciens qui racontent, mais ça passe aussi par les jeunes qui demandent. Et je m'inclus encore dans les jeunes et je me mets dans cette situation de demander lorsque je suis avec ma grand-mère. Mais je m'inclus aussi maintenant dans les vieux ou dans les garants de cette mémoire quand je monte sur scène et que je viens parler au public. Parfois plus jeunes, et je l'espère, même quand ils sont jeunes, où là, je suis le passeur de relais et je prends complètement, j'incarne complètement le rôle qu'a eu ma grand-mère avec moi, et mon spectacle devient la grand-mère de tous les gens qui viennent dans le public.
Alors, Lionel, je suis fidèle à ce que vous avez dit ou écrit. C'est à ma génération que j'ai envie de m'adresser avec ce spectacle en parlant d'un peuple qui ne revendique à rien et qui pourtant a tout osé, un peuple auquel je rends hommage avec ce spectacle.
Ouais, c'est exactement ça. Moi, je voulais leur rendre hommage parce que ils revendiquent rien. Les Portugais, notamment les Portugais immigrés ici en France, mais les Portugais en général, c'est un peuple qui souvent fait profil bas. D'ailleurs, je connaissais pas cette histoire. C'est parce qu'on n'en parle pas tant que ça, parce que personne ne se vante, parce que personne ne met quoi que ce soit en avant. Parfois, je trouve que c'est dommage parce que je voudrais que l'histoire perdure et que le devoir de mémoire se fasse. Mais la plupart du temps, je trouve ça assez beau, d'humilité, d'abnégation aussi, de se dire que la vie continue, qu'il faut avancer, que bah, c'est bien ce qui a été accompli, mais qu'il faut continuer à avancer. Et moi, je voulais rendre hommage à cette humilité, je voulais rendre hommage à ces petites gens qui ne font pas état de quelque chose qui, pour moi, pourtant est héroïque. Globalement, tant dans l'exemple que ça donne et que ça devrait donner si l'histoire était encore plus connue que ça, que dans ce qui a été réellement réalisé. Et voilà, je trouve que faire chuter une dictature, c'est déjà pas rien. Faire chuter une aussi longue dictature, c'est remarquable. La faire chuter en gardant la lueur d'humanité, de rester pacifique et en faisant le pari de ne pas faire usage de la force et de ne pas tirer le moindre coup de feu, je trouve que c'est vraiment héroïque et c'est à eux que je voulais rendre hommage, non seulement à ceux qui ont été des acteurs directs de cette révolution des œillets, mais à tous ceux qui ont vécu ça, qui ont subi ça, comme l'a été ma grand-mère, des gens qui ont grandi dans le Portugal de Salazar, qui n'ont connu que ça et qui tout d'un coup découvrent une liberté nouvelle grâce aussi au courage de tout un peuple.
Alors, Lionel Cecílio, il faut dire que la pièce La Fleur au Fusil, bon, il y a des traces écrites dans la mesure, il y a un petit livre qui a été publié.
Oui, alors en fait c'est un livre qui est une continuité de la pièce. Si la pièce marque un point, disons que le livre est un trait qui poursuit ça. C'est-à-dire que l'histoire m'a tellement touché, m'a tellement ému, j'avais tellement de choses à raconter, tant sur l'histoire globale que sur les petites histoires qui ont formé la grande, mais aussi sur le passage de relais avec ma grand-mère, sur cet échange entre deux générations. J'avais tellement à dire que quand je suis arrivé chez mon metteur en scène, Jean-Philippe Daguerre, j'avais beaucoup trop de matière pour le théâtre. La temporalité du théâtre, elle est ce qu'elle est, et elle est très incarnée. Elle doit être un peu comme un film ramassé dans quelque chose d'intense mais de court, alors que la temporalité du livre, quand on lit, elle est beaucoup plus détendue. On peut prendre le temps de se faire ses propres images, de rentrer en profondeur dans les choses. Et donc, quand je suis arrivé chez Jean-Philippe Daguerre avec toute cette matière, il m'a dit, il faut que tu retournes en écriture pour couper, pour coller à ce que nous, on veut faire, c'est-à-dire un objet théâtral. Mais tout ce que tu as mis dedans est évidemment passionnant et enrichissant. Tu dois le laisser dans le livret du spectacle qui devrait exister parallèlement à la représentation. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Le livre a été édité et par chance, il touche au cœur presque autant, si ce n'est plus que le spectacle. Donc, on en vend beaucoup à la sortie du théâtre, évidemment, mais même au-delà de ça. Et d'ailleurs, je tiens à rendre hommage à la librairie portugaise et brésilienne qui se trouve dans le 5e arrondissement de Paris, qui est un des lieux où le livre se trouve et qui promeut ce livre avec beaucoup de passion. Donc, si vous avez l'occasion, amis parisiens qui écoutez Radio Alpha, de passer par la librairie portugaise et brésilienne, allez voir Corinne de ma part, regardez non seulement le livre La fleur au fusil, que j'ai eu la chance de pouvoir déposer là-bas et que j'ai eu l'honneur d'écrire, mais surtout regardez tout ce qu'il propose, parce que c'est un lieu de vie pour les lusophiles et les lusophones extraordinaire.
Alors, Léonard Sully, vous avez parlé de Jean-Philippe Daguerre, bon, c'est le metteur en scène de la pièce, tout simplement.
Ouais, c'est ça. Alors, tout simplement, je sais pas si on peut dire tout simplement, parce que c'est un metteur en scène qui, au-delà d'être devenu un camarade de théâtre depuis plus de 10 ans maintenant, puisqu'il me fait travailler sur beaucoup de spectacles, est au-delà de ça un ami, mais c'est surtout quelqu'un que je respecte profondément, et humainement, et artistiquement. Et je sais pas si on peut dire que c'est le metteur en scène tout simplement, parce que ce que Jean-Philippe Daguerre apporte lorsqu'il pose son regard sur un spectacle est monumental. Je pense que le public ne s'en rendra pas compte, parce que c'est un petit peu comme tous les génies dans leur discipline. Parfois, ça a l'air facile. Alors, on va regarder Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo faire des gestes incroyables sur un terrain de foot, et on a presque l'impression dans notre canapé qu'on serait capable de les faire, parce qu'ils rendent l'excellence facile. Et Jean-Philippe Daguerre fait ça avec le théâtre. Il donne le sentiment que tout est simple, que tout est facile, qu'on aurait pu le faire, presque limite qu'il n'est pas passé par là. Mais pour arriver à ce sentiment-là, il faut un niveau d'excellence et de compréhension de son art qui est ultime. Et j'ai un profond respect pour cet homme qui non seulement a compris le théâtre, mais a compris les humains, et qui a une science du théâtre qui est presque encore moins aiguisé qu'il n'a une humanité profonde. Et je crois que c'est la rencontre de ces deux choses qui font de lui un metteur en scène extraordinaire. Et c'est pas moi qui le dis, puisqu'il est, vous le savez, plusieurs fois primé. Je crois qu'au moment où on se parle, il a déjà obtenu 9 Molières pour la plupart de ses spectacles, tout confondu, dont 5 juste cette année. C'est juste extraordinaire, et c'est la preuve qu'il sait et diriger les acteurs et comprendre les textes, et comprendre le public, et ça, c'est remarquable. Et vraiment, j'ai beaucoup de chance d'avoir un ami comme Jean-Philippe, mais j'ai surtout beaucoup de chance d'avoir un camarade de théâtre qui m'a accompagné sur ce spectacle comme Jean-Philippe, vraiment.
J'ai dit tout simplement, mais un tout bien, un tout honneur, attention.
Bien sûr.
Alors, les lumières du spectacle sont assurées par Moïse Hill. Alors, le spectacle, il y a des textes, mais ce texte-là, il est entrecoupé par des petites brides de chansons. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui va se passer sur scène?
En fait, dans La Révolution des œillets, pour ceux qui connaissent l'histoire, ça va vous paraître évident. Pour les autres, il faut venir voir le spectacle pour comprendre, mais la radio a une part extrêmement importante. Il faut savoir qu'à l'époque, pour communiquer, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, et donc il fallait que les gens qui voulaient réunir autour de ce mouvement pacifique puissent communiquer du mieux qu'ils pouvaient. Et pour communiquer, eh bien, ils ont usé du média radio, qui pourtant était censuré, qui était contrôlé par la PIDE et par l'Estado Novo et par le gouvernement salazariste, qui à ce moment-là était dirigé par Caetano, mais malgré cette censure, c'était le moyen de communication le plus sûr et le plus évident. Et moi, j'ai trouvé que cette radio, avec notamment les messages révolutionnaires cachés dans des chansons, et notamment les chansons de Fado, qui étaient quasiment les seuls autorisés sur cette radio contrôlée par la censure, j'ai trouvé que c'était très beau. J'ai trouvé que c'était beau d'ingéniosité, et j'ai trouvé que c'était beau aussi de musicalité. Et donc j'ai voulu inscrire l'écriture du spectacle, et Jean-Philippe m'a tout de suite suivi dans la mise en scène, donc tout a été très cohérent, dans quelque chose autour de la musicalité, autour du son. D'ailleurs, en règle générale, Jean-Philippe Daguerre écrit toujours des textes comme il écrit de la musique. Il y a une vraie rythme rythmique. Moi, pour avoir joué dans des spectacles de Jean-Philippe avant d'autres spectacles, je me rends compte qu'il y a toujours une rythmique dans la manière de dire le texte et dans les silences et dans voilà. Donc tout est très musical et on s'est rencontrés à cet endroit-là, lui, moi et la Révolution des œillets qui avait été extrêmement musical aussi. Et donc on a voulu mettre beaucoup l'accent sur les musiques et donc il y a beaucoup de musiques de l'époque qui sont les vraies musiques de l'époque qu'on a récupérées, les originaux qui passaient sur la radio Renaissance à l'époque là-bas, et on a récupéré ces musiques. Et puis évidemment moi sur scène de temps en temps à différents moments je chante quelques notes, et notamment celle de Grandola par l'intermédiaire d'un de mes personnages qui s'appelle Zé et qui va le point levé chanter quelques notes de Grandola Villa Morena. Et donc voilà, c'est vraiment j'ai envie de dire presque un personnage à part entière, non seulement la musique, les chansons, mais cette musicalité globalement qui tourne autour de la Révolution des œillets.
Alors, le 25 avril de 1974, une page d'histoire du Portugal, mais aussi de la planète. Aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se passer, pas seulement au Portugal, mais un peu partout dans le monde, et ici en France et ailleurs, justement, le 25 avril, c'était la liberté. Aujourd'hui, le Portugal traverse une situation difficile. Vous, comme vous appartenez déjà à la deuxième ou troisième génération, je ne sais pas comment vous classez, ça vous préoccupe la situation au Portugal actuellement ?
Oui, ça me préoccupe, comme la situation globalement du monde me préoccupe. Moi, j'ai écrit sur la Révolution des œillets parce que l'histoire, elle est magnifique, et qu'elle est extrêmement touchante et qu'elle est porteuse d'espoir. Et il se trouve que c'est mes origines, que je parle la langue et que ça me permet sur scène de parler les deux langues. Et c'est la première fois que sur une scène, on a un spectacle comme ça qui est bilingue sans être ni surtitré ni quoi que ce soit, et où on a fait l'effort dans l'écriture d'inclure la langue pour que tout le monde comprenne. Donc moi, je suis rentré dedans de manière très immersive et j'emmène le spectateur de manière très immersive avec moi, mais si j'avais découvert une autre histoire sur l'Iran, sur n'importe quel autre pays, sur l'Ukraine, sur n'importe quel autre pays, j'aurais écrit sur cette histoire-là, parce que ce qui me touche, c'est l'universalité de cette histoire. Donc moi, quand je raconte la Révolution des œillets, je raconte pas tant le Portugal de 74 que le formidable message d'espoir qu'on peut avoir nous aujourd'hui en 2025 à l'échelle de la planète entière, de se dire c'est possible. Ils l'ont fait sans internet, ils l'ont fait sans être informés comme on l'est aujourd'hui, ils l'ont fait avec une mondialisation qui n'était pas aussi forte, ils l'ont fait peut-être dans un monde qui était plus violent et en tout cas moins évolué qu'on peut l'avoir aujourd'hui, avec des guerres de colonies qui étaient encore présentes, des choses comme ça qui font qu'on avait moins avancé sur les questions d'humanité. Si eux l'ont fait, pourquoi est-ce que nous on serait pas capable de le faire? Qu'est-ce qui nous empêche si ce n'est nous-mêmes? C'est ça que je veux porter. Alors évidemment, moi je suis très inquiet de la situation du monde globalement, et quand je regarde la montée de l'extrême droite dans beaucoup de pays, et notamment des pays d'Europe très proches, et notamment le Portugal, évidemment que ça me touche énormément. Mais moi, ce qui me touche vraiment, c'est de me dire, mais ces gens-là ont-ils oublié? La Révolution des œillets, c'était il y a 50 ans. La plupart des gens qui l'ont vécu sont encore vivants. Comment peuvent-ils aujourd'hui avoir oublié à quel point les libertés sont difficiles à reconquérir? Alors évidemment, on peut avoir des envies d'autorité, on peut avoir des envies de stabilité économique, mais il ne faut pas que ça soit au prix de nos libertés, parce que ces libertés, elles sont fondamentales, elles doivent être inconditionnelles, et surtout, elles sont trop difficiles à récupérer. Ce spectacle en est la preuve, mais autour de nous, le spectacle des infos au quotidien en est la preuve aussi. Donc moi, aujourd'hui, je m'inscris humblement, quand je monte sur le plateau, dans une espèce de lanceur d'alerte, mais aussi de porteur d'espoir. Pas moi, mais moi comme le témoin de ce qui a été fait il y a 50 ans et au Portugal, et dont les gens n'ont peut-être pas totalement conscience. Donc oui, je suis inquiet, mais en même temps, parce que je porte ce spectacle, bah, tous les soirs en montant sur scène, je suis plein d'espoir et je transmets cet espoir aux gens. Donc je suis inquiet, mais j'ai de l'espoir. Moi, je pense qu'on peut le faire. Je pense que l'humanité, elle est en chacun d'entre nous, elle est encore là, elle est vivace, elle est vivante, elle est vibrante, et c'est à nous de nous souvenir que bah, ce monde nous appartient, à nous, peuple, et pas à une poignée de dirigeants parfois complètement malades, qui perdent un peu les pédales et qui perdent pied pour du pouvoir, pour de l'argent ou pour de l'ego.
Alors, la fleur au fusil du 11 septembre au 18 novembre, du mardi au samedi à 21h, théâtre La Huchette, 23 rue de La Huchette, Paris. Cinquième, on convite un portugais pour essayer la peste.
Sim, olha, eu tenho muito prazer a falar agora em português para o público português da Rádio Alfa, porque a Rádio Alfa sempre, sempre teve aos meus lados para todos os meus espetáculos, e agora é a primeira vez que eu faço um espetáculo a propósito do Portugal, acerca da Revolução dos Escravos. É a primeira vez da minha vida que eu vou ao palco falando português, e o público francês entende tudo, e o público português tem essa nostalgia, essa saudade de ouvir a língua portuguesa neste espetáculo, e eu partilho essa nostalgia e essa saudade com eles, e tenho um orgulho imenso em fazer esse espetáculo e em atuar nas duas línguas, que são as minhas duas línguas e as minhas duas identidades, e por isso eu quero agradecer a Rádio Alfa e quero agradecer todos os ouvintes da Rádio Alfa, e espero que vão vir todos ao meu espetáculo para a gente partilhar todos juntos essa festa da liberdade e essa festa da comemoração da Revolução dos Escravos.
Ah, quand j'ai arrivé ici pour fuir la dictature, là, oui, je vivais dans un carton, un vrai. Alors on peut que je pète la casa dans la porte, hein?
La dictature? T'as fui la dictature? T'étais en Allemagne, mémé? Oh!
La dictature de Salazar? En Portugal?
Ça vient de vous cet accent des lourds. Portugal, je suis portugais.
Ah ouais, mais là j'ai pas pouvoir. T'aider mon chat.
Je vais descendre en contact de la population. J'emmène mon dictaphone, j'enregistre tout ce que je peux enregistrer et je t'envoie mon article dès demain matin. Allez!
Faut je prenne un perdre le lugar.
Pour faire le service dans un restaurant, tu iras habillé comme une pute, comme ça. Papier d'autorisation de travailler par le mari ou par le père. Ja!
Mémé, tu veux pas t'arrêter une seconde, s'il te
plaît? Mémé, arrête-toi! Tu me donnes le tournis, franchement!
En cada esquina un ami.
Qu'est-ce qui torturait?
La police?
En cada... Les agents de la pipe?
Proche d'igualdade.
Si on est au moins deux, on est plus ça. On est ensemble.
Peça de teatro La Fleur au Fusil, ao Teatro La Huchette, que se encontra no número 23, Rue de La Huchette, em Paris, 5, a partir do dia 11 de setembro até o dia 18 de novembro, com, evidentemente, Leonel Cecílio. Obrigado ao Manuel Alexandre e damos encontro no próximo domingo, espero em dia 14, e nada melhor que ouvirmos música Lurlur.
Life.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.